Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, hospitalité, hostilité. Face à ceux qui frappent à la porte, l'Europe oscille entre deux attitudes. La Grèce a été l'une des portes d'entrée de l'espace européen en 2015 et 2016. Ils sont encore aujourd'hui 20 000 dans les îles de la mer Égée. 20 000 réfugiés bloqués là à attendre qu'on examine leur demande d'asile avant de poursuivre leur voyage. C'est l'une des conséquences de l'accord UE-Turquie signé en mars 2016 pour réduire la migration vers l'Europe. Résultat, le camp de Moria sur l'île de Lesbos est devenu une poudrière selon les termes de l'agence de l'ONU chargée des réfugiés, le HCR. Reportage dans ce camp surpeuplé de Charlotte Stievenard.
À l'extérieur du camp de Moria, une jeune yéménite et un afghan font connaissance. Au milieu des oliviers, des déchets et des tentes, des enfants jouent.
Je n'ai plus de mots pour décrire cette situation. Le premier jour où je suis arrivé ici, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cet enfer ?» Si j'avais su comment c'était ici, j'aurais préféré me noyer dans l'eau entre la Turquie et ici.
Oui, c'est pareil pour moi. J'aurais préféré mourir plutôt que de venir ici. Tout le monde est surpris en arrivant dans ce camp.
Ils sont là depuis peu. Le jeune Afghan dort dans une tente qui prend régulièrement l'eau à l'extérieur du centre. Il n'est pas seul, 2500 autres, dont de nombreuses familles, sont dans cette situation. La jeune yéménite et ses parents sont hébergés dans un conteneur à l'intérieur du centre. Ils le partagent avec une autre famille. Le centre d'enregistrement et de premier accueil de Moria est désormais accessible aux journalistes sur autorisation du ministère de l'Immigration, impossible à obtenir auparavant. De nouveaux conteneurs ont été posés sur les anciens, créant un deuxième étage. Ce demandeur d'asile venu d'Afrique francophone est là depuis 11 mois.
La situation est changée. La fois passée, il n'y a pas de toilettes.
Ça s'est un peu amélioré ?
Oui.
Mais pour obtenir de la nourriture, il faut toujours attendre des heures dans des files d'attente. Et dans les conteneurs, certains continuent de dormir sur le sol, comme ces Africains de l'Ouest.
J'ai vu.
C'est 10 personnes qui dorment ici.
C'est pas une maison, c'est la prison. C'est l'enfer ici.
La fenêtre brisée du conteneur a été réparée avec du carton. Les nuits de violence sont nombreuses ici. Personne ne se sent en sécurité et surtout pas les femmes, comme cette jeune femme de Sierra Leone qui se plaint de harcèlement.
La plupart du temps, tu passes et les hommes te disent toutes ces choses. Même si tu leur dis que tu es mariée, ils s'en fichent.
Dimitris Vafeas, le directeur adjoint du camp, nous présente la situation en chiffres. Cet ancien employé du ministère de la Marine est arrivé à son poste il y a un peu plus de 2 ans, juste après la signature de la déclaration Union européenne-Turquie.
Bienvenue dans le centre d'accueil et d'enregistrement de Lesbos. C'est ce qu'on voit là sur le plan. Il fait 48 000 mètres carrés. Notre capacité est de 3 100 réfugiés et migrants. Aujourd'hui, nous en avons 7 500, car tous les jours, nous avons des arrivées. Et depuis la déclaration Union européenne-Turquie, tous ceux qui arrivent sur les îles grecques doivent y faire leur demande d'asile. En 2015, avant la signature, il y avait 5 000 personnes qui arrivaient par jour, mais elles étaient en transit et continuaient vers l'Europe. Maintenant, ils sont obligés de rester ici, sauf les personnes vulnérables. Elles représentent 90 % des personnes et peuvent parfois quitter l'île. Nous avons commencé depuis un mois à désengorger l'île et à les amener vers la Grèce continentale.
C'est au service d'asile qu'il faut s'adresser pour comprendre pourquoi Moria est régulièrement surpeuplée. Les bureaux sont installés dans une énorme cage de fer au milieu du centre. Pour les 50 employés grecs et leurs 110 collègues européens du bureau d'appui, l'EASO, la charge de travail est énorme. En octobre 2013, ils examinaient environ 400 demandes par an. Aujourd'hui, ils traitent entre 12 000 et 13 000 demandes chaque année. Les procédures prennent parfois plusieurs mois, explique Marios Kaleas, le directeur.
Comme l'examen des demandes est quelque chose de très compliqué, qui peut avoir des conséquences sur le futur des personnes, nous prenons beaucoup de précautions. Si à cela on ajoute la charge de travail qu'on a déjà, ça ne permet pas l'évaluation rapide des demandes. Il y a des gens qui sont là depuis 5 à 6 mois. et même d'autres qui attendent depuis un an.
La déclaration Union européenne-Turquie prévoyait le renvoi des Syriens en Turquie à condition qu'ils y soient considérés comme étant en sécurité par le service d'asile grec. Selon Marios Kaleas, cette procédure n'a jamais fonctionné.
Comme vous le savez, très peu de Syriens ont été renvoyés en Turquie. Ceux qui sont repartis l'ont fait de leur propre gré. Ils ont jeté l'éponge. La plupart sont restés ici. Ils ont fait leur demande d'asile, et même dans le cas où elle a été rejetée en première ou en deuxième instance, ils ont poursuivi la procédure, soit en faisant ce qu'on appelle une demande ultérieure, soit en portant l'affaire devant la Cour des droits de l'homme. Ce faisant, ils ont réussi à geler leur situation. Cela n'a donc jamais fonctionné.
Résultat, le camp se remplit. Syriens, Afghans, Irakiens, mais aussi beaucoup d'Africains. Une situation qui a attiré l'attention d'Amnesty International. L'Organisation de défense des droits humains y a récemment envoyé son nouveau directeur, Kamin Aidou. Il a été choqué de voir des enfants qui vivent dans des tentes à l'extérieur du camp.
Il faut se poser la question. Si tous ces réfugiés venaient de pays où la population majoritaire est blanche, est-ce que l'UE gérerait le problème de cette façon? Ils doivent se poser la question en conscience. Je ne le pense pas. Si vous regardez la guerre du Kosovo et les camps de réfugiés qui avaient été créés, c'était très dur aussi, mais c'était beaucoup plus humain à l'époque.
Pour Amnesty International, c'est la déclaration UE-Turquie même qui pose problème. Selon Kamin Aidou, elle a permis de nombreuses violations des droits humains, particulièrement la Convention de Genève de 1951, créée pour les réfugiés européens après la Seconde Guerre mondiale. L'accord Union européenne-Turquie destiné à réduire la migration vers l'Europe. Il prévoit aussi que pour chaque Syrien renvoyé vers la Turquie au départ des îles grecques, un autre Syrien est réinstallé de la Turquie vers l'Union européenne. À Istanbul, notre correspondante Anand Lauer a rencontré un jeune artiste syrien. Il vit réfugié là-bas depuis plus de 5 ans. Asmar Tiba a été très éprouvé par les violences dont il a été témoin. Aujourd'hui, il espère se reconstruire très vite un avenir en Belgique où il devrait être relocalisé.
Asmar Tiba a 21 ans et les traits d'un adolescent auquel la vie promet encore tout. Mais cela fait longtemps que ses rêves d'enfant se sont fracassés en de petits éclats de verre qui, chaque jour, dans la relative tranquillité de l'exil, viennent encore l'écorcher et hanter son imaginaire. Asmar n'avait pas 14 ans quand la guerre est entrée dans sa vie. Privé d'école, dès 2011, il étudiait alors dans un lycée francophone de Damas. Il mettra 2 années à quitter la Syrie pour la Turquie voisine. Avec sa mère, puis seul, d'une ville, d'un logement, d'un petit boulot à l'autre. Asmar est un jeune homme brillant, un autodidacte, qui parle couramment 3 langues, en plus de l'arabe maternel, et ne cesse d'en apprendre d'autres. C'est aussi un être tourmenté qui évoque pudiquement ses problèmes psychologiques. Hors de Syrie, Asmar cherchait un refuge. Il l'a trouvé dans l'art, notamment ces dernières années la peinture acrylique. Connaissant son histoire, on ne s'étonne qu'à moitié de voir cet artiste syrien dessiner sur la toile des maisons islandaises qu'il n'a jamais vues qu'en photo.
Quand je peins, je suis loin du chaos de la ville. Je suis au sommet d'une montagne en Islande. Je suis perdu dans cette montagne et je cherche ma maison. Pour moi, vivre dans son chez-soi, dans sa propre maison, cela veut surtout, surtout et surtout dire être en sécurité.
Asmar sourit. Il devrait prochainement aller vivre en Belgique, y être relocalisé selon le jargon officiel de l'accord migratoire turco-européen. Ses rêves ne sont plus en Syrie.
Je ne pense pas que la Syrie redeviendra un jour un endroit vivable pour moi. Bien sûr qu'elle le sera de nouveau, plus tard. Mais cela prendra beaucoup de temps. Parce que la clé, ce n'est pas la fin de la guerre. C'est le fait que les gens comprennent que la guerre est finie. Qu'ils soient en Syrie, hors de Syrie, dans les camps de réfugiés, dans différents pays du monde, les Syriens devront encore résoudre des conflits avec eux-mêmes.
En Belgique, Asmar ne veut pas dépendre des aides allouées aux réfugiés. Il espère vivre de ses œuvres qu'il vend déjà sur Internet. Autodidacte toujours, il se forme aussi depuis plusieurs mois à la réalisation de films d'animation.
L'année dernière, l'Union européenne a délivré un peu plus de 3 millions de titres de séjour à des étrangers, principalement des Syriens et des Ukrainiens qui se rendent notamment en Pologne pour travailler. On fait le point avec Thomas Giraudot à Varsovie.
Bâtiments, transports routiers, grande distribution, industrie automobile, les Ukrainiens travaillent aujourd'hui dans de nombreux secteurs en Pologne. Ils remplacent les Polonais, eux-mêmes partis en Europe de l'Ouest pour trouver du travail avec un meilleur salaire. Et depuis 4 ans et l'annexion de la Crimée par la Russie, Russie, l'émigration s'accélère. Selon les derniers chiffres, fin 2016, 400 000 Ukrainiens possédaient un titre de séjour légal. Certains estiment à plus d'un million le nombre de voisins de l'Est arrivés en Pologne. Mais dans le même temps, cette présence agace le gouvernement à Varsovie. Le ministère de l'Intérieur a stoppé les concours de financement de projets liés à l'intégration des minorités et les fonds européens finançant ces actions sont poliment refusés par le pays. Résultat, plusieurs associations se retrouvent en grande difficulté, comme la maison ukrainienne de Varsovie qui donne des cours de langue et aide à remplir les documents administratifs. Le gouvernement du PiS semble en ce moment privilégier le retour des Polonais au pays où l'accueil régulé préétabli de migrants dits culturellement proches, c'est-à-dire catholiques. En juillet dernier, le gouvernement a ainsi annoncé la quasi-conclusion d'un accord avec les Philippines. Ses habitants n'auront a priori plus besoin d'un permis de travail pour s'installer en Pologne.
La peur de l'étranger, réfugié, migrant se traduit parfois dans les urnes avec l'arrivée au pouvoir de partis d'extrême droite et un discours très dur sur l'immigration. En Autriche, la coalition de la droite et de l'extrême droite est au pouvoir depuis presque une année maintenant. Et à partir de l'an prochain, une loi très polémique sur les allocations familiales dont bénéficient les étrangers va entrer en vigueur. À Vienne, on retrouve notre correspondante Isor Yas. Bonjour Isor.
Bonjour.
Cette loi, elle prévoit d'indexer les allocations familiales sur le niveau de vie du pays d'origine des travailleurs lorsque ces derniers ont laissé leurs enfants derrière eux à l'étranger.
Oui, le montant de l'allocation versée pour des enfants qui vivent dans d'autres États de l'Union européenne sera en fait ajusté au niveau de vie du pays de résidence de ces enfants. Cette mesure vise en grande majorité les pays frontaliers de l'Autriche, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Slovénie, mais aussi la Roumanie, des pays dont le niveau de vie est nettement inférieur. Pour leurs ressortissants qui travaillent en Autriche, mais dont les enfants vivent dans le pays d'origine, la baisse sera donc conséquente. L'allocation passera par exemple de 172 à 93 euros par mois pour un enfant résident en Hongrie et dont les parents travaillent en Autriche. Le gouvernement affirme verser 250 millions d'euros chaque année à des enfants vivant à l'étranger et espère, avec cette réforme, économiser 100 millions d'euros par an.
Mais la Commission européenne, Isor, elle a émis des réserves sur une telle mesure.
Oui, juste après l'adoption de cette loi par les députés autrichiens, un porte-parole de la Commission a indiqué que l'indexation des prestations familiales n'était pas autorisée en droit européen. La Commission rappelle que lorsque les travailleurs contribuent aux systèmes nationaux de protection sociale, ils sont censés recevoir les mêmes avantages que les autres, quelle que soit leur nationalité et le lieu de résidence de leurs enfants. La Commission a annoncé qu'elle pourrait engager une procédure d'infraction vis-à-vis de l'Autriche, mais la coalition au pouvoir à Vienne ne semble pas inquiète et fait valoir que Bruxelles avait proposé l'indexation des allocations familiales en 2016 au Royaume-Uni. C'était lors des négociations pour éviter un Brexit.
En tout cas, Isor, l'opposition est unie pour dénoncer cette loi.
Oui, les partis d'opposition regrettent que l'Autriche donne une telle image sur la scène européenne, alors que le pays assure la présidence tournante de l'Union jusqu'à décembre prochain. Les représentants au Parlement européen des trois principaux partis d'opposition ont ainsi adressé une lettre ouverte au gouvernement, une lettre dans laquelle ils s'inquiètent de voir les idées et les valeurs européennes constamment remise en cause par le gouvernement autrichien. Le parti libéral Neos a par ailleurs déposé plainte pour incitation à la haine contre un groupe de représentants syndicaux du FPE, le parti d'extrême droite. Car pour promouvoir cette loi, ce groupe avait publié sur Facebook une photo d'une jeune fille noire, voilée, recevant de l'argent. Photo accompagnée du commentaire « Notre argent pour nos enfants ». Un message de haine qui n'a pas sa place en Autriche, a expliqué le parti Néo.
Merci Isor. En Italie, le gouvernement est désormais eurosceptique et très à droite. La censure serait-elle le nouveau mot d'ordre de ce gouvernement? La question enflamme régulièrement le débat public dans le pays, particulièrement en ce qui concerne les questions de culture, de médias, de migration. Reportage de Cécile Debarge à Palerme où l'inquiétude se fait particulièrement sentir ces derniers jours.
On est encore là, malgré tout et malgré ceux qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. On est encore là.
Ces mots d'Antonio Rousseau Rousseau, président de l'ACLI, l'Association chrétienne des travailleurs italiens, l'ouverture du festival Sabir sur l'immigration ne sont pas anodins.
Au-delà de ce qui se passe en Italie et qui nous inquiète, nous voudrions discuter aussi de ce qui s'est passé depuis la dernière édition de notre festival, du cadre législatif qui est encore empiré avec les nouvelles mesures sur la sécurité et les migrations.
La critique contre les politiques migratoires du gouvernement est claire. C'est pour cette raison d'ailleurs que deux députés de la Ligue ont demandé au Parlement italien que la RAI annule son partenariat avec le festival. Une demande restée lettre morte mais qui est emblématique du climat tendu dans le pays autour des questions de société et de migration. Pour Francesco Martone, qui fait partie du réseau de défense des droits de l'homme, cela s'insère dans un climat général de criminalisation de la solidarité.
Cela se manifeste aujourd'hui en Italie par une instrumentalisation du droit pénal, par la fermeture des ports, mais aussi par des mesures contre les ONG qui portent secours aux migrants. L'utilisation dans les médias d'un langage qui tend à criminaliser la solidarité des ONG et enfin par les prises de position de leaders du gouvernement.
Alors, quand à la même période, trois festivals culturels palermitains défendant des choix artistiques engagés autour de la rencontre des cultures ou des droits LGBT par exemple, se voient refuser leur financement de la part du ministère des Affaires culturelles, nombreux sont ceux qui crient à la censure pure et simple. Andrea Inzerio, le directeur artistique du festival Sicilia Queer Festival, est inquiet. Il a reçu le soutien du ministère dès 2012, avant de se le voir retirer en 2017 et 2018. Pourtant, la manifestation réunit tous les facteurs du succès. Valorisation des espaces marginalisés, accueil de réalisateurs reconnus, avant-premières internationales et un nombre croissant de participants.
D'après des critères que nous ne comprenons pas, et selon la direction générale du cinéma, ce festival a perdu en qualité et il est moins pertinent en 2018 au niveau national et international qu'en 2012. Et ça, c'est une folie.
Malgré tout, il ne veut pas pointer du doigt la nouvelle équipe au pouvoir.
Je suis perplexe quand j'entends ceux qui voient dans cette décision une conséquence du nouveau gouvernement Salvini-Di Maio, parce qu'il me semble que la commission d'attribution des financements a été nommée par le gouvernement précédent. Ce n'est vraiment qu'une hypothèse, car je ne fréquente pas les salons romains. Mais oui, c'est possible que les commissions interprètent l'air du temps et que, de fait, elles puissent se donner cette ligne-là au sein du ministère. Mais sincèrement, je ne sais pas.
Dans la foulée de cette annonce du ministère des Affaires culturelles, Andrea Cusumano, adjoint à la culture de la mairie de Palerme, avait vivement dénoncé ses choix sur Facebook. Mais là encore, il invite à la prudence.
Les festivals qui se voient couper leur financement alors qu'ils avaient été récompensés pendant de nombreuses années. Cela signifie que pour le ministère de la Culture, ils ne sont plus perçus comme des événements importants pour le développement culturel de notre pays.
C'est aussi une certaine vision du développement du pays qui est remise en cause, explique l'adjoint à la Culture.
Est-ce que l'on pense vraiment que pour développer l'Italie, on peut se passer des excellences du sud du pays? Pour moi, c'est ça la vraie question.
Quelle politique culturelle pour le nouveau gouvernement? La question se pose dans le sud du pays, mais plus largement dans toute l'Italie, à travers notamment le petit écran de la télévision. Musique sympathique, casserole ou mijote, sauce tomate, basilic et pâte fraîche, voilà la Prova del Cuoco, l'émission de cuisine des ménagères diffusée sur la RAI, la chaîne du service public italien. L'émission est consensuelle, tellement consensuelle que fin octobre, pour raison éditoriale, le chef Koumalé, qui présentait des recettes de cuisine du monde, est remercié. Mieux vaut se concentrer sur les cuisines régionales, lui dit-on. Même à la télé, c'est les Italiens d'abord, s'emporte le chef sur sa page Facebook. Des accusations démenties par la chaîne du service public.
Accent d'Europe avec Françoise Grelot à la réalisation. Vous nous retrouvez, vous nous réécoutez aussi sur internet rfi.fr dans l'onglet émission et sur les réseaux sociaux.